bonjour Nagui, que Dieu vous bénisse. Bonjour Jean-Gilbert, bonjour Rosanie, bonjour la belle-mère. Et nous voilà le jeudi 23 décembre. Bonjour Indiren, Sou et Natacha. Assurément, je ne sais même pas si c'est... Peut-être que c'est juste Natacha qui utilise le branchement de Indiren. Mais en tout cas, bonjour à Natacha, bonjour à Indiren, bonjour à toute la petite famille et toute la famille étendue. Ils nous regardent depuis le doux soleil de l'île Maurice. J'espère que ça va bien et j'espère que ça ne sera pas trop compliqué pour rentrer au pays par la suite. Marie-André, bonjour. Bonjour à mon ami Farley. Merci Maggie, soyez bénis vous aussi. Bonjour la soeur Florie, au frère Louis. Donc c'est Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Marie-Huguette. Et pour une dernière fois cette année, je salue Gaëlle et Leïka. Bonjour à la sœur Argelia. Bonjour à Marie-Marthe. Et si Marjo est à tes côtés, nous la saluons aussi. Bonjour à Immacula, soyez bénis Immacula. Là vous entendez Nema qui est en train de vider sa gamelle d'eau. Voyons voir si elle va venir demander un peu d'attention. Non, elle s'est couchée. Je vais changer la lumière. C'est bizarre. Je vais juste changer ça un peu ici. Voilà, il semble que là on me voit un peu mieux. Ah ben bien le bonjour à toute la famille. J'espère qu'ils vont tous très bien et que vous profitez effectivement du beau soleil mauricien et de tout ce qu'il y a à se régaler aussi. La semaine dernière, je regardais s'il était possible de trouver des alpouris ou des faratas à Montréal, mais ce foncièrement mauricien. Et je n'ai pas nécessairement trouvé ce que je voulais. Alors à ton retour, Natacha, il faudra me dire s'il y a un endroit à Montréal où je peux me rappeler l'île Maurice. Il y a un restaurant, mais je l'ai fréquenté quatre ou cinq fois probablement. Mais foncièrement, une fois que j'ai goûté à l'île Maurice, directement à l'île Maurice, le restaurant Les Délices de l'île Maurice ne m'a pas impressionné. Bonjour Julie, bien le bonjour à votre époux. Bonjour Annie, que Dieu te bénisse, content de t'avoir avec nous ce matin encore. Bien le bonjour à la belle-mère. Alors c'est notre avant-dernière bénédiction matinale de l'année 2021. Comme j'ai annoncé hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, je vais prendre une semaine En tout cas, la semaine prochaine, je ne serai pas en onde. On se retrouvera quelque part au début janvier. Donc, 22 mois d'enseignement quotidien. Je vais prendre une petite semaine pour me reposer. Je serai assurément le nez dans ma Bible. Je serai assurément en train d'étudier, mais à un rythme peut-être un peu moins soutenu. Donc aujourd'hui, c'est une journée fraîche. Ce matin, quand je suis sorti, il faisait moins 14 et on ressentait moins 20. Alors bonjour à Sampawende, bonjour à Jay et bonjour à Priscille. Wenaning Barka à tous les trois. Et là, je suppose qu'ils sont en train de rigoler en m'ayant entendu parler. En Morée. Bonjour Rachel, sois bénie. Bonjour aux sœurs qui sont connectées avec toi. Bonjour Lucie, soyez bénie. Gourmet des îles à Montréal, non, ça je connais pas. Je connaissais les délices de l'île Maurice, c'est quelque part à Verdun. À la rive sud, je sais qu'il y a un restaurant pas tellement loin de notre église à la rive sud, en fait, à Longueuil. J'y suis allé, c'est vrai. Ouais, là-bas c'était correct, ouais. La rive sud c'était correct. Les délices de l'île Maurice, c'était l'ancien propriétaire quand j'y suis allé, puis c'était pas ça. C'était bien tant que je ne savais pas quelle était la vraie chose, disons. Et quand j'ai su ce qu'était la vraie chose, ben là, c'est comme, non, pas vraiment. Je garde de très bons souvenirs de ma visite à l'île Maurice, particulièrement un repas où c'était la maman de la sœur Tina qui avait fait un sept curry, je crois. Aïe, aïe, aïe. C'était très bon, très copieux. Et le soir, on devait manger encore. J'étais incapable. Mais c'est un très très bon souvenir. Je garde un bon souvenir des gens que j'ai rencontrés là-bas. Alors, salutations à toute la famille, Natacha. Bonjour à la sœur Susanna. Que Dios me la bendiga, hermana. Bonjour à Myriam et à Donald. Il nous regarde fidèlement depuis Ottawa. Encore 2-3 minutes, puis on va débuter. Donc, on rappelle les petites annonces. La semaine prochaine, je vous rappelle, il n'y aura pas de bénédiction matinale. Je vais prendre un peu de repos. Donc, on ne se verra pas la semaine prochaine au niveau des bénédictions matinales. De surcroît à cela, ceux qui veulent s'inscrire pour l'assemblée de dimanche, vous pouvez le faire. On vous rappelle toutefois que pour entrer dans l'église, on demande le passeport vaccinal tel qu'exigé par la santé publique du Québec. Alors, vous pouvez vous inscrire en nous appelant directement à l'église ou en envoyant un courriel. Là encore, directement à l'adresse email de l'église. Bonjour Jude, bonjour Carrie, que Dieu vous bénisse tous deux. Bonjour Denise, bonjour Gérard, soyez bénis. Alors prions et après ça on débute pour ce matin. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes, temps où nous plongeons encore une fois avec ce grand privilège dans la parole de Dieu. Nous te demandons Seigneur d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir notre pensée, de permettre Seigneur à cette parole de s'enfoncer profondément dans notre être, afin qu'elle y prenne racine et qu'elle croisse jusqu'à porter un fruit qui te sera agréable, de ce côté-ci de la vie comme dans l'éternité. Je te demande, Seigneur, de bénir chacune des personnes qui écoutent en direct cet enseignement, mais aussi ceux qui pourront y prêter attention en différé. On te demande, Seigneur, qu'une même grâce, une même onction soit déversée sur nous tous. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors cette semaine, on continue notre étude sur la thématique « On l'appellera », un verset qu'on retrouve dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, ça se présente au moment où les anges vont venir le soir de la naissance du Messie, vont venir dans les champs autour de Bethléem et puis entonner des louanges et ils vont dire « aux bergers ». Qui sont dans les pâturages, que le Messie est né, qu'un enfant est né à Bethléem, et que celui-ci est le Christ. On leur dit aussi qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Mais ces phrases ont déjà été prononcées précédemment, probablement 400 ou 500 ans plus tôt, à l'époque du prophète Ésaïe. Et on retrouve donc le passage dans Ésaïe au chapitre 9, le verset 5, et je lis pour vous. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et bien entendu, cette semaine, on étudie la deuxième partie du verset, et je répète la phrase pour vous. « On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et le mot, le titre que nous étudions ce matin, Dieu puissant. Simplement parce qu'il est important de le rappeler, le terme « on l'appellera » se retrouve régulièrement dans l'Ancien Testament sous une autre formulation. Bien entendu, en hébreu, c'est le terme kara, Q-A-R-A, qui veut dire invoquer, et ce qui représente un terme tout à fait légal et juridique. C'est se placer sous la tutelle, sous la protection, sous la domination de quelqu'un qui va veiller sur nous. Et voilà pourquoi il était intéressant aujourd'hui, probablement dans un contexte comme celui qu'on vit présentement, où il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes avec cette question de COVID, même si on est rendu à 22 mois dans cette aventure. On est tout de même encore aujourd'hui affecté par ce qui se passe. Et voilà pourquoi il est important de se rappeler qu'on peut invoquer le Seigneur. Pour ceux qui n'étaient pas lundi, on vous rappelle qu'invoquer a aussi une connotation bien imagée lorsqu'on étudie tout simplement l'étymologie du terme hébraïque. Dans certaines traductions modernes, on a même utilisé ce terme-là. Et l'image, c'est le cri d'une bête. Donc, le cri qu'une bête fait, un animal fait, lorsqu'il est terrorisé, lorsqu'il est blessé, lorsqu'il subit une douleur importante, il va pousser un gémissement, un cri. Et ce genre de cri qui est représenté par le terme « kara », appeler ou invoquer. Ça veut donc dire que nous aussi, dans nos moments difficiles, nous pouvons nous tourner vers Dieu et appeler notre Seigneur avec toute la douleur, avec toute l'émotion, avec tout l'effroi qui peut nous saisir. Nous pouvons nous tourner vers lui en sachant qu'il entend et qu'il reçoit favorablement ses enfants qui crient à lui avec toute la douleur et toute l'émotion qui peut les habiter. Et aujourd'hui, c'est un terme qui va très bien avec la thématique du jour. on l'appellera Père éternel. Donc on l'invoquera, on criera à lui comme on crie auprès d'un Père éternel. Donc deux termes ce matin, Père, qui dans sa version longue va être le terme Abba. On le retrouve dans le Nouveau Testament lorsque Jésus va prier, il va dire Abba Père, donc Abba. Dans la formule ici, c'est l'abréviation, donc Abbé, Ab. Et éternel, Ad, Adé. Donc c'est les deux mots qu'on a ce matin. Pour chacun de ces mots, on va avoir des synonymes ou des déclinaisons différentes qui nous permettent de comprendre un peu mieux la portée de chacun des termes. Donc premièrement, on crie vers lui parce qu'il est notre Père, Ab. Premièrement, Père veut dire effectivement ce papa, mais c'est pas n'importe quel papa. J'aime souvent illustrer le Notre Père, la prière que Jésus va enseigner à ses disciples, en expliquant que Jésus fait une distinction importante entre le Père céleste et l'ensemble des pères de cette terre. Lorsqu'il enseigne le Notre Père, Jésus va dire, lorsque vous priez, dites ou élevez cette prière qui dit « Notre Père qui est aux cieux ». Pourquoi spécifier qui est aux cieux si ce n'est pour le distinguer des pères d'ici-bas sur terre? Et assurément, plusieurs d'entre nous ont eu de bons papas. Certains en ont eu d'excellents, d'autres en ont eu de moins bons. Dans certains cas, il y en a même qui ont eu le désarroi de tomber sur des pères absents et sur des pères qui ne méritaient pas l'appellation paternelle. Toutefois, lorsqu'on parle du Père éternel, du Père céleste, lorsque Jésus va dire « Notre Père qui est aux cieux », il veut faire la distinction avec l'ensemble des pères. Quelle que soit la qualité du papa que tu as eu, ce papa ne se compare en rien avec notre Dieu. Notre Dieu lui est supérieur et de loin meilleur et de loin plus fort, plus grand, plus puissant. Quand on était petit, on aimait dire à nos amis que notre papa était le plus fort, que notre papa était le meilleur dans ceci, le meilleur dans cela, que notre papa était capable de faire ceci, de faire cela. Dans les meilleures qualités que notre papa terrestre peut avoir, il n'est en rien comparable à notre Père céleste. Et lorsqu'on parle d'un père, on parle bien entendu de l'amour paternel. Donc ici, lorsqu'on dit qu'on va appeler le Père éternel, on fait appel à l'amour paternel parfait. Cet amour qui ne fluctue pas, cet amour qui ne change pas, cet amour qui est profond jusqu'à donner sa vie pour ses enfants, cet amour qui veille sur nous en tout temps, en toutes circonstances, en toute situation, cet amour qui fait en sorte que notre Père céleste ne sommeille ni ne dort, il veille sur nous. Un peu comme un jeune papa qui vient de retrouver son poupon à la maison, et bien qu'il soit fatigué, il s'assoit au pied ou auprès du landau de l'enfant, du lit de l'enfant, et il ne fait que l'admirer pendant des heures et des heures, et il se rend compte le matin venu qu'il n'a pas dormi de la nuit, mais il n'en est pas du tout triste, il n'en est pas du tout affecté, tout simplement parce que il regarde cet enfant qu'il chérit et qu'il aime. C'est effectivement ce même amour parfait qui habite Dieu. Voire, je dis le même amour parfait, et là je fais un lapsus. L'amour de Dieu n'est pas identique à celui de cette terre, mais est bien entendu supérieur. Donc la première notion qu'on doit savoir, c'est que notre Dieu personnifie, notre Dieu possède l'amour paternel parfait. Voilà pourquoi on peut donc crier à lui. Lorsqu'on parle du Père, du terme Ab en hébreu, ou du terme Abba, on va parler non seulement du Père, mais aussi du patriarche. Donc le Père d'une lignée, le Père d'un peuple, l'ancêtre d'une nation. Et très souvent, dans la connotation du patriarche, on y inclut une notion de sagesse. Et notre Dieu, effectivement, est ce patriarche sur le peuple que nous représentons en tant que chrétiens, et il possède toute la sagesse du patriarche. Il possède la sagesse excellente du patriarche à la tête d'une œuvre. Donc pour nous, encore une fois, si nous nous trouvons dans une situation de décision compliquée, dans une situation où nous devons donner une orientation à notre vie, où nous craignons pour l'avenir, nous pouvons nous tourner vers notre Dieu qui possède la sagesse la plus complète qui soit et la plus excellente qui soit. Père, patriarche, on nous parle aussi de Ab comme fondateur. Le patriarche est celui qui fait naître la nation et celui qui donne naissance à la nation, un peu comme Abraham était le patriarche du peuple d'Israël. Lorsqu'on est patriarche, c'est donc qu'on a, ou lorsqu'on est fondateur d'une chose, c'est donc qu'on a une vision pour la dite chose. Lorsque quelqu'un fonde une compagnie, c'est qu'il a une vision pour cette compagnie. Lorsque quelqu'un fonde un groupe quelconque, c'est qu'il a une vision particulière pour le groupe, quel que soit ce groupe qu'il fonde. Et lorsque notre Dieu est le fondateur de l'humanité, c'est qu'il avait effectivement un plan pour l'humanité dans son ensemble, mais un plan aussi pour chaque être humain qui verrait le jour. Et lorsque l'on comprend que Jésus est le fondateur de l'Église, on comprend donc qu'il a aussi une vision pour l'Église. Alors aujourd'hui, on mène une vie qu'on peut vivre sans prêter attention à Dieu, ou une vie pour laquelle on peut s'arrêter, se tourner vers notre fondateur, Christ lui-même, et lui demander: Seigneur, pour la vie que tu m'as accordée, quel est ton plan? Assurément, la nouvelle année apporte toujours son lot d'incertitudes et son lot de défis. Plusieurs sont déjà au courant de changements qui vont s'opérer dans leur vie cette année. Changement de statut social, changement de statut marital, changement de statut professionnel, changement de fonction dans l'entreprise, dans le travail, déménagement, changement de zone d'études, changement de palier d'études aussi. Et pour chacune de ces transitions, il y a son lot d'inquiétudes qui peut venir vers nous. Mais si on comprend que notre Seigneur est le fondateur de l'œuvre à laquelle nous appartenons, si on comprend que notre Dieu est le fondateur de notre vie et que pour notre vie et pour l'œuvre à laquelle nous appartenons, il a une vision, alors assurément, nous pouvons nous tourner vers lui en dépit de nos inquiétudes, en dépit de notre ignorance par rapport à demain, et demander à Dieu: parle-moi, parle-nous, dis-nous, qu'est-ce que tu veux faire avec nous? Quels sont tes plans? Quels sont tes projets? Puisque tu en es l'instigateur, quel est le plan que tu as? Quel est le dessein que tu as pour ma vie? Donc, vision du fondateur, lorsqu'on parle de Ab, père, on parle aussi du chef, du conducteur, un peu comme Abraham va conduire sa famille depuis Ur en Chaldée jusque vers la terre promise, un peu comme Moïse qui va prendre son peuple sous la gouverne que Dieu place entre ses mains et qui va faire sortir son peuple d'Israël et le conduire en pèlerinage, un peu comme Josué, son successeur, qui va prendre Israël au bord du Jourdain, lui faire traverser le Jourdain et l'amener dans la conquête de la terre promise, dans la conquête de Canaan. Et on parle donc ici du leadership du chef, du leadership du leader. C'est redondant de dire cela ainsi, mais parfois c'est tout simplement pour qu'on comprenne un peu mieux que j'utilise cette erreur grammaticale de faire une redondance. Donc le leader ou son leadership est aussi apprécié en tant qu'enfant de Dieu. Nous pouvons aller vers lui en sachant que ces décisions sont justes, que ces décisions sont appropriées, que la route qu'il emprunte pour nous et qu'il ouvre pour nous est parfaite. Tout à l'heure, on parlait du fondateur qui avait une vision. Donc, avoir une vision, c'est avoir un but, un objectif. Mais entre aujourd'hui et l'atteinte de cet objectif, on a un chemin à parcourir. On peut avoir comme objectif de devenir PhD, d'avoir un doctorat, mais entre celui qui entre à l'école dans la première classe du primaire et qui aboutit éventuellement avec un diplôme de docteur, ben, il y a tout un parcours à suivre, il y a tout un chemin qui doit être tracé. Et si nous avons un leader comme Christ, le leader parfait, alors assurément, il nous conduit pas à pas. Et dans cette route qu'il inaugure pour nous, dans cette voie qu'il ouvre pour nous, on peut avoir l'assurance qu'il est non seulement devant nous, mais qu'il est aussi à nos côtés en tout instant, en toutes circonstances, et qu'il nous mène à bon port. L'histoire qu'on a mentionnée à travers les derniers jours, lorsque Jésus est dans la barque, ou avant la traversée, qui dit à ses disciples, « Passons de l'autre bord, montons dans la barque et passons dans l'autre bord. » Et pendant la traversée, il y a une tempête. Jésus dort à la poupe du bateau. Et ses disciples viennent le réveiller en lui disant, « Mais Seigneur, n'as-tu pas peur que nous sombrions? N'as-tu pas peur que nous coulions ?» Jésus se lève, calme la tempête en proclamant silence. La tempête, le vent, la pluie s'arrêtent de façon instantanée et se tourne vers ses disciples en leur disant, « Mais pourquoi m'avez-vous manqué de foi? Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ?» Il peut se permettre cela parce qu'il avait précédemment dit à ses disciples, « Passons de l'autre bord. » Alors si Jésus nous dit que nous allons passer de l'autre bord, c'est donc que nous allons arriver à destination. Le chemin peut être compliqué, la voie peut être ardue, voire même inquiétante dans certains cas, voire même pour le commun des mortels, être terrifiante. Mais si on sait qui nous conduit, qui a eu la vision, qui est l'instigateur du chemin et qui ouvre le chemin, qui nous conduit, qui est le leader dans notre vie, alors à ce moment-là, on devrait rappeler à notre âme de se calmer, de retourner à son repos, sachant que c'est Dieu qui nous conduit, que c'est Jésus qui marche devant nous. Dernier point concernant le Père. Un Père, c'est celui qui donne vie. Dans la tradition juive, on avait cette impression que la vie ne venait pas de notre mère, mais venait uniquement de notre Père. Que la mère était un peu le vase dans lequel l'enfant se formait pendant 9 mois, mais que la source de vie par elle-même venait du côté paternel. Et voilà pourquoi la succession d'une généalogie était toujours d'un père vers un fils qui devient lui-même père et qui engendre. Donc, dans la notion du père, il y avait cette notion ou cette connotation de celui qui apporte la vie, de celui qui donne la vie. Et assurément, notre Dieu est celui qui a la force vivifiante de celui qui donne la vie. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Dieu transforme la vallée de l'ombre de la mort, une vallée infertile, une vallée sombre, une vallée où on languit, une vallée désertique, il la transforme en vallée verdoyante. Pourquoi? Parce que émane de lui cette faculté, cette force de donner la vie. Idem lorsqu'on parle du salut. La Bible dit que nous étions tous morts à cause de nos offenses, tous morts à cause de nos péchés et de nos iniquités. Mais Christ, à travers sa mort et sa résurrection, au pécheur qui se repent et qui le réclame ou qui le proclame comme sauveur et seigneur de leur vie, il leur donne ce privilège, ce pouvoir d'être appelés fils de Dieu, donc de recevoir la vie de leur Père céleste et d'être maintenant non plus des morts vivants qui se destinent à l'éternité dans la condamnation et dans l'enfer, mais à des vivants pour l'éternité, rachetés, vivifiés, graciés, bénis dans la présence éternelle de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a vu concernant le Père? On a vu tout d'abord que le Père veut dire que en lui, nous nous tournons vers lui parce qu'en lui habite l'amour paternel parfait, en lui habite la sagesse du patriarche, en lui habite la vision de celui qui est fondateur de la vie terrestre, fondateur de l'Église par surcroît, en lui habite aussi le leadership adéquat du chef, du général, du conducteur, en lui habite aussi la force vivifiante du géniteur, la force vivifiante de celui qui nous accorde effectivement, jour après jour, souffle de vie. Enfin, on nous dit que ce n'est pas simplement un Père, mais que c'est un Père éternel. Père éternel veut donc dire que ses capacités couvrent tout le passé. Rien n'est arrivé dans l'histoire de l'humanité que Dieu n'en ait eu contrôle. Il contrôlait tout le passé. Il dominait sous tout le passé. Cela ne veut pas dire qu'il intervenait. Cela ne veut pas dire que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est lui qui l'a fait. Non, il dominait là-dessus. Il faisait en sorte que nous ne pouvions pas aller plus loin. Nous ne pouvions pas aller de façon pire. Un peu comme dans le cas de Job. Ce n'est pas Dieu qui a tenté Job. Ce n'est pas Dieu qui a malmené Job. Mais Dieu a dit, tu n'as pas le droit d'aller au-delà de tel point. Tu n'as pas le droit d'exterminer Job. Et le désir du diable était effectivement d'exterminer la race humaine, d'exterminer la création de Dieu, de renverser la création de Dieu. Et Dieu a dit, il y a des limites que tu ne peux pas franchir. Donc, dans toute l'histoire de l'humanité, tout comme dans notre vie, il y a des limites que le diable ne peut pas franchir, qui est sous le contrôle unique de Dieu. Donc, Dieu, sa capacité couvre tout le passé. Ça veut dire que s'il a la capacité pour tout le passé, il peut changer le passé de quelqu'un. Il peut changer les vestiges du passé. Il peut transformer les séquelles du passé. Il peut transformer les douleurs et les plaies ouvertes du passé. Il peut guérir notre passé. Plusieurs d'entre nous, on marche pendant des années et des années avec des boulets qu'on traîne depuis l'enfance. Des abus qu'on a pu subir, des méfaits qui ont pu être commis à notre égard, des douleurs qui sont nées à travers nos relations avec autrui. Et on traîne ces choses pendant des années et des années. Notre Dieu peut. Notre Dieu a tout le pouvoir. Notre Dieu a toute la capacité de guérir tes blessures du passé. Aussi lointaines soient-elles et aussi profondes soient-elles. Mais s'il est éternel, c'est qu'il est non seulement capable de guérir tout ce qui a été fait alors que nous étions hors de sa présence, alors que nous étions hors de sa famille, hors de sa grâce. Il peut pardonner et sanctifier tout cela, mais de surcroît à cela, tout l'avenir est aussi sous son contrôle. Non seulement domine-t-il le passé, mais il domine le présent et il domine l'avenir. Donc notre Dieu est conscient de quoi est formé ton avenir. Notre Dieu est tout à fait au contrôle de quoi est fait ton avenir. Et voilà pourquoi il est tellement important de venir vers lui en lui disant, Seigneur, je te proclame comme le roi et le maître de ma vie. Non seulement t'ai-je donné mon peu glorieux passé, non seulement est-ce que je te donne mon présent qui est faible, mais de surcroît à cela, mon incertain futur, je te le confie. Pour que si je n'ai pas mené la vie que je devais mener jusqu'à présent, si j'ai fait à ma tête, pour m'assurer que le restant de mon existence se passe avec l'aval du parfait papa, de la sagesse du patriarche, de la vision du fondateur, du leadership du chef et de la force vivifiante parfait père géniteur éternel. Donc notre Dieu a donc cette capacité de prendre soin de ce qu'il y a à régler de ton passé, de prendre soin de ce qui est à régler dans ton présent, mais assurément de prendre soin de ton futur. Et nous ne sommes pas dans l'ignorance que notre futur en tant qu'enfant de Dieu se passe dans la félicité éternelle en la présence de notre Seigneur au paradis pour l'éternité. Et là-bas, nous connaîtrons à ce moment-là toute la grandeur de la grâce, de l'amour, de la bénédiction d'être en sa présence. Ce qui est intéressant aussi lorsqu'on parle d'éternel, et je vais conclure là-dessus ce matin, c'est qu'on parle non seulement de quelque chose qui perdure dans le temps, mais quelque chose qui est perpétuel, qui est constant et qui est continu. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de fluctuation chez notre Dieu. Et ça, on le retrouve clairement dans un verset qui dit « Chez notre Seigneur qu'il n'y a pas l'ombre même d'un changement ». Ça veut dire que la grâce toute-puissante de Dieu est la même d'éternité en éternité. Ses capacités, son amour paternel, sa sagesse de patriarche, sa vision de fondateur, son leadership de chef, sa force vivifiante de père, cela existe d'éternité en éternité et ça ne fluctue pas. Ça ne fluctue pas en dépit, en raison des saisons, ça ne fluctue pas en raison du temps qui tarde, ça ne fluctue pas en raison des bénéficiaires qui seraient ingrats ou pas, ça ne fluctue jamais. Notre Dieu est parfait dans tout ce qu'il est, parfait dans tout ce qu'il fait, parfait dans tout ce qu'il désire, parfait dans tout ce qu'il initie, parfait dans tout ce qu'il espère, dans tout ce qu'il a comme vision, parfait dans le chemin dans lequel il nous conduit. Notre Dieu n'a aucune fluctuation. Un papa, si bon soit-il, ici-bas sur terre, connaît des fluctuations. À un moment donné, un peu plus fatigué, donc un peu plus prompt, par moments un peu inquiet par les choses qui se passent autour de lui, donc moins attentif peut-être aux besoins de ses enfants ou aux demandes de ses enfants. Parfois parce qu'il a lui-même des limites, donc incapable de donner ce qui serait nécessaire ou ce qui serait approprié à ses proches. Notre Dieu ne connaît aucune de ses limites, ne connaît aucune de ses fluctuations, ne connaît aucun de ses défauts ou aucun de ses manquements. Il est totalement, complètement, de façon excellente, parfait, complètement, totalement, excellemment parfait. Et voilà pourquoi encore aujourd'hui, nous pouvons nous tourner vers lui, parce que nous savons qu'il nous aime d'un amour paternel parfait, parce que nous savons qu'il a la sagesse parfaite d'un patriarche, parce que nous savons qu'il a la vision parfaite de celui qui fonde une œuvre qui n'est pas épuisable ou destructible, parce que nous savons qu'il a le leadership exemplaire et parfait du chef, et parce que nous savons qu'il donne la vie et la vie en abondance, comme nul autre n'est capable. Alors je prie ce matin que ce Papa éternel qui veille sur toi, tu puisses le rencontrer effectivement et en faire ton père, ton patriarche, ton fondateur, ton leader, ton chef et celui qui est ta source de vie. Concernant ton passé, qu'il puisse guérir. Concernant ton présent, qu'il puisse en avoir le contrôle. Et concernant ton avenir, qu'il puisse ouvrir devant toi les portes qui doivent s'ouvrir. Alors Seigneur, aujourd'hui j'appelle la bénédiction du Père sur ma sœur et sur mon frère. J'appelle la bénédiction du Père éternel sur chacune des personnes qui nous écoutent ce matin. Qu'on puisse tous et chacun te découvrir comme ce Père éternel, qui n'a aucun semblable ici-bas sur terre, qui les dépasse tous et chez qui il n'y a aucune faille, aucune ombre de changement. Celui qui est parfait en toutes choses, dans ses jugements, dans ses préceptes, dans ses pensées, dans sa vision, dans le chemin, dans les époques, dans les saisons qu'il suscite pour ses enfants. Alors aujourd'hui, que la bénédiction du Père Céleste soit sur chacun d'entre nous. Et nous te louons, toi notre Père, toi notre Seigneur, et nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors voilà ce qui termine notre étude pour ce matin. On a un dernier terme à étudier demain matin, Prince de paix ou Prince de la paix. Donc, je vous invite à être là demain matin. On vous rappelle que vous pouvez être présent dimanche matin pour l'Assemblée, mais qu'il vous faut présenter un passeport vaccinal à jour, tel qu'il nous est exigé par la santé publique, encore une fois. Ce n'est pas une gaieté de cœur, ce n'est pas une décision ni personnelle, ni de groupe au niveau de la direction de l'Église. C'est vraiment quelque chose qui nous est imposé par le gouvernement et on estime qu'à preuve du contraire, bibliquement parlant, nous n'avons pas le fondement pour nous opposer à cette demande ou à cette exigence du gouvernement. Alors on obtempère même si on n'est pas content, même si on pense que c'est une erreur de la part du gouvernement, mais on exige malgré tout donc le passeport vaccinal pour tous ceux qui voudraient venir. On vous demande, s'il vous plaît, si vous n'avez pas le passeport vaccinal, ne mettez pas les frères ou les sœurs qui seront à l'accueil dans l'embarras. On continue à projeter nos assemblées sur Facebook et sur toutes les plateformes Internet, donc vous pouvez toujours y accéder en tout temps. Mais s'il vous plaît, si vous comptez venir à l'église, s'il vous plaît, on va éviter le scandale, on va éviter les accrochages. Merci de venir strictement si vous avez le passeport vaccinal. De surcroît à ça, il faut s'inscrire. Donc, on le fait soit par courriel auprès du secrétariat de l'église ou par message téléphonique au bureau de l'église, comme d'habitude. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve... Ah oui, deuxième petite annonce, la semaine prochaine, je ne sais pas si je l'ai fait à la fin de notre réunion ce matin, mais je l'ai dit plus tôt, la semaine prochaine, il n'y aura pas de bénédiction matinale. Je vais prendre un peu de répit. Daphné ne travaille pas non plus la semaine prochaine, donc on va essayer, en tout cas, je vais essayer de me réveiller un peu plus tard, pas sûr que ça fonctionne, mais je vais prendre, et Daphné aussi, on va prendre un peu de repos la semaine prochaine. Donc, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas les bénédictions la matinale la semaine prochaine. On sera en répit pour au moins une semaine. Et on va se retrouver en janvier. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée sous la protection, sous le regard du parfait Papa qui soit. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.